Bonjour à toutes et tous. Si vous vous intéressez aux questions de défense et de sécurité, vous savez ce que représente le salon Eurosatory qui se déroule tous les deux ans à Paris. C'est cette année la 28e édition qui se tient du 17 au 21 juin prochain à Paris-Nord-Villepinte. Et Eurosatory, qui sponsorise cet épisode, sera comme à chaque fois le grand rendez-vous mondial de la défense et de la sécurité. Je veux juste dire, c'est un événement que je trouve très étonnant, assez fascinant. J'y suis allé pour la première fois il y a deux ans pour l'édition 2022. Et vraiment, si vous vous demandez ce qui se fait dans le monde militaire et en matière de sécurité, c'est là qu'on peut voir les dernières tendances, depuis les plus grandes geekeries et les innovations du moment, jusqu'aux grands équipements du futur pour les armées et les forces de sécurité en France et dans le monde. Bref, si vous intéressez de près à ce monde-là, c'est le moment de vous inscrire pour ce qui sera la plus grande édition de l'histoire du Salon, avec plus de 1900 exposants et 60 000 visiteurs. Vous pouvez le faire en allant sur eurosatory.com. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Aujourd'hui pour un nouvel épisode dans le viseur de récits, de souvenirs d'opérations ou de vie militaire en tout cas. Aujourd'hui donc en partenariat avec l'École de Guerre Terre et j'ai donc le plaisir de recevoir le commandant Stéphane, bonjour.
Bonjour Alexandre.
Pour un souvenir, pour un récit, alors qui date d'il y a quelques années maintenant, alors vous êtes à l'École de Guerre Terre désormais, mais il y a quelques années vous étiez donc dans l'opération Barkhane. Je crois que ça remonte à 2018.
C'est ça, oui.
Donc c'est relativement récent à l'échelle de Barkhane. Alors dites-nous, où est-ce que c'était, quand est-ce que c'était ce souvenir?
Donc ce souvenir, c'était le 14 avril 2018 à Tombouctou. Ce jour-là, la base de Tombouctou, sur laquelle sont installés des Français, mais aussi une base de l'ONU à côté, a été attaqué par une vingtaine, trentaine de djihadistes. Une attaque complexe précédée de tirs de mortier, de véhicules suicides.
Vous étiez à Tombouctou, c'était votre base.
Exactement. En fait, c'était notre base mère, je dirais, à partir de laquelle nous partions en opération. Et il s'est avéré que ce jour-là, je n'étais pas à Tombouctou avec ma compagnie. Je commandais ma compagnie. J'étais en mission ailleurs. J'étais à Gao. Et il n'était resté dans ce poste-là, à Tombouctou, qu'une quinzaine de personnes que j'avais laissées pour monter la garde et assurer la vie courante. Et évidemment, l'ennemi a profité de ce moment-là pour attaquer et bénéficier d'une situation de force et de surprise.
On peut signaler que pareil, enfin, c'est pas rien, Tombouctou, parce que bon, c'est symbolique pour le patrimoine, mais c'est aussi parce que c'est le moment où les djihadistes ont pris Tombouctou en 2013, avant de commencer à menacer plus le sud du Mali, que ça a déclenché l'opération Serval qui est ensuite devenue Barkhane. Donc de ce point de vue-là, j'imagine qu'il devait y avoir une certaine, enfin, un truc particulier, j'imagine, même à être basé à Tombouctou et à rayonner autour.
Oui, alors déjà il y a le symbole. Tombouctou, c'est un symbole, vous venez de le dire. Ensuite, c'est une ville importante. Dans le nord du Mali, ça reste une ville importante. C'est un axe de communication à partir duquel de nombreux commerçants passent et trafiquent aussi, évidemment. On n'est pas loin du Niger et c'est un point de franchissement pour franchir le Niger, qui est un fleuve quand même assez large. Surtout, oui, pour la France, c'est un des points de contrôle de cette fameuse boucle du Niger et une grosse base, sachant que, comme je l'ai dit, là, il y avait une base de l'ONU, une base importante, avec même un état-major important. Donc s'attaquer à Tombouctou, c'est s'attaquer à un point qui, à l'époque, était important dans le dispositif Barkhane et MINUSMA.
Et vous-même, vous êtes, on peut peut-être rentrer un peu dans le détail, c'est-à-dire vous êtes calé comment, enfin, c'est un camp en dehors de Tombouctou, c'est au contact de la ville, c'est un peu plus loin au contraire, c'est-à-dire vous êtes, à quel point est-ce que c'est grand, est-ce que c'est des habitations, est-ce que c'est retranché, enfin je veux dire, quand on dit on attaque un camp français, une base française, est-ce que c'est dans Tombouctou ou est-ce que c'est une espèce de fortin en dehors, quoi?
Alors ce camp est au sud de Tombouctou, il est basé au niveau de l'aéroport international. Alors on dit aéroport international, mais en fait c'est un tout petit aéroport qui ne fonctionne presque plus. Pourquoi un camp près de l'aéroport? C'est parce que qui contrôle l'aéroport contrôle quand même une partie importante de la zone. Le camp est grand, on l'appelle même le super camp, puisque le camp de l'ONU est assez massif. Alors je n'ai plus les chiffres en tête, mais c'est un camp assez massif.
Vous étiez avec les ONUiens?
Alors nous sommes au sein d'un super camp, qui qui est entouré de palissades, etc. Et au sein de ce super camp, il y a bien les deux camps, le camp français et le camp ONU, qui sont séparés. Donc le camp français monte sa propre garde, etc., etc. Pour des motifs de sécurité, bien évidemment.
Et palissade, c'est palissade ou c'est...
Non, c'est pas palissade, ce sont des...
Là, spontanément, comme ça, ça n'a pas l'air bien solide pour résister face à des groupes armés terroristes.
Alors, c'est pas très solide, hein. J'ai dit palissade, mais ce sont des barbelés, enfin des clôtures. Voilà. Donc, c'est pas très, très,
très solide. Quoi.
Non, c'est pas en dur. En revanche, le camp français était construit en bastion wall, donc qui sont des grands bacs ou non remplis de sable donc qui résistent à des attaques de RPG, enfin de roquettes, etc. Et pareil pour le super camp de la MINUSMA, donc à l'intérieur de ce, ils ont aussi leur propre bastion wall. Donc ça reste
sommaire.
Mais bon,
le truc qui faisait l'étanchéité avec l'extérieur, c'est juste un débarbelé.
Donc pas grand chose, un petit poste de filtrage et puis c'est tout.
Ouais, et du coup là-bas vous vous sentiez en sécurité, enfin c'est-à-dire quelle est l'ambiance, est-ce qu'on se sent vulnérable? Parce que ça dépend. Ça dépend du retranchement et puis ça dépend aussi évidemment de l'ambiance dans la région et de la situation stratégique. À ce moment-là, est-ce que vous vous sentiez vulnérable à Tombouctou ?
Alors je dirais au Mali, on se sent toujours un peu vulnérable parce que les attaques de base sont assez fréquentes. Alors c'est souvent des attaques par tir indirect, du mortier, de la roquette. Et régulièrement, on reçoit des tirs. Donc on sait qu'on est ciblé et donc on est vulnérable parce que la base ne bouge pas. Donc forcément, la cible, elle est facile. En revanche, on ne se sentait pas non plus menacé d'une attaque complexe, extrêmement aboutie et ambitieuse. Donc on vivait, pour ceux qui vivaient au camp, quand on y était, on était bien. On ne vivait pas avec la peur permanente, mais on savait que ponctuellement, on pouvait être attaqué. Mais pas attaquer de cette manière.
Il y a moyen de se prendre un tir de roquette ici ou là, mais ça va pas être l'assaut du château fort. Quoi.
Exactement. Et on ne s'attendait pas à avoir eu... Alors même s'il y avait des éléments de renseignement qui nous disaient « attention, quelque chose se prépare », etc. Mais on n'attendait pas forcément l'assaut du château fort aussi brutal et bien coordonné.
Et donc là, ce jour de 2018, donc vous partez en mission à Gao, j'ai toujours un peu de mal. J'imagine que je ne suis pas le seul avec les distances, les temps au Mali. Enfin, c'est quoi, c'est une mission de 2 heures, 2 jours, 2 semaines?
Alors, lorsque nous partions en mission, donc dans la région de Gao, puis après le Liptako, qui est à l'est encore de Gao, c'est des missions de 4 à 6 semaines. Donc, il faut plusieurs jours de route entre Tombouctou et Gao pour rejoindre. Donc, une fois qu'on est à Gao, c'est la grande base française, on passe quelques jours pour se préparer et ensuite on part sur le terrain. Nous, donc ma première mission à ce moment-là avait duré 6 semaines. La suivante avait duré 2 ou 3 semaines et celle d'après 4 semaines, sans retourner à la base. Donc c'est quand même des missions qui sont épuisantes, épuisantes pour les hommes, mais surtout pour les matériels qui subissent énormément la chaleur, le sable, etc. Donc en effet, au moment de l'attaque, je venais de rentrer à la base de Tombouctou pour remettre en condition les matériels et les personnels de la compagnie. C'est un peu le coup de chance, je dirais, puisqu'on n'était pas dans le Liptako en pleine mission, on était à l'aéroport de Tombouctou, de Gao, pardon, prêt à embarquer et à venir renforcer le poste immédiatement.
D'accord. Donc, vous vous apprêtez à embarquer, la mission est terminée, il est temps d'aller se reposer à Tombouctou. Et là... Qu'est-ce qui se passe et surtout comment est-ce que vous venez à connaître ce qui se passe?
Alors à ce moment-là, j'étais au niveau de notre campement, un petit campement temporaire à Gao pour remettre en condition donc, tout le matériel et les hommes. Le centre opération du régiment m'appelle, on me dit « venez tout de suite, il se passe quelque chose à Tombouctou ». Donc là, immédiatement, je me rends au poste de commandement et là, on m'annonce donc attaque du poste de Tombouctou. Très peu d'informations. Situation confuse, des blessés, donc vous partez immédiatement.
Juste là, dans votre tête, vous aviez laissé combien de monde, quel niveau de...
Alors très précisément, moi j'avais laissé 2 groupes de combat, donc c'est 15 personnes maximum, et il y avait en plus sur site des éléments du soutien, un petit détachement de forces spéciales, et du 2e hussard, des éléments de renseignement. Donc sur le poste, je n'ai plus les chiffres en tête, mais ça se comptait 25-30 maximum. Et en personnel de combat pur, on va dire, la moitié seulement. Donc 15 quinzaine de personnes, oui.
Et Donc ils attaquent le camp français ou ils attaquent tout le camp, les Vénusiens aussi ?
Alors, l'attaque, elle a été précédée d'un tir de mortier assez dense pour justement faire en sorte que tout le monde rentre dans les bunkers pour se protéger et donc de limiter notre capacité de réaction. Et quelques minutes après ce bombardement, ils ont envoyé des véhicules chargés d'explosifs, donc des véhicules suicides on les appelle, donc chargés de plusieurs centaines de kilos d'explosifs. Un premier véhicule a explosé au niveau de l'entrée extérieure du supercamp. Donc à ce moment-là, il y avait un détachement de l'ONU qui montait la garde, un détachement africain, alors je ne sais plus le pays, je crois que c'était des Togolais, mais je ne suis plus très sûr. Donc le véhicule s'est explosé à l'entrée, donc il y a eu quelques morts déjà à ce moment-là, ce qui a ouvert la voie au deuxième véhicule, qui lui s'est dirigé vers la base française, parce que c'était la cible, et donc des véhicules grimés aux couleurs de l'ONU, donc véhicules blancs, marqués ONU dessus, enfin UN, pour justement instiller le doute et faire en sorte qu'on ne réagisse pas. Qu'est-ce que c'est que ce véhicule? Pourquoi il est là?
Oui, c'est-à-dire en se disant que les soldats français vont hésiter un peu deux fois avant de cribler de balles un véhicule de l'ONU. Quoi.
Exactement.
Enfin, estampillé ONU.
Exactement.
Donc, si on repasse à vous, c'est-à-dire donc à Gao, vous apprenez tout ça, et donc on vous fait monter dans un hélico, dans un avion, pour revenir
donc,
le plus vite.
Là, on a un élément de QRF, hein, de force de réaction rapide qui s'est monté. Donc moi, j'ai embarqué avec la section d'aide à l'engagement débarquée de la 13e DBLE, donc c'est les commandos du régiment, plus des éléments du groupe commando parachutiste, du 1er régiment de chasseurs parachutistes qui était à Gao, et une section entière de ma compagnie pour aller renforcer immédiatement le poste. Donc on a embarqué dans les avions et les hélicos. Donc moi j'ai embarqué dans un Casa Nurse, donc un Casa qui est fait, un avion, pour évacuer les blessés. Mais bon, il n'y avait pas forcément d'autres moyens sur place, donc on a embarqué dedans. Et pour se porter en direction du poste, qui était en train de combattre, et aussi qui avait des problèmes de liaison radio, puisque l'attaque ennemie avait réussi à détruire une partie des communications. Donc la liaison était assurée, mais instable. Très difficile d'avoir des éléments, en fait, sur ce qui se passait sur le terrain.
Et quand vous partez là, par voie aérienne, c'est un vol de combien de temps, quoi, vous...
Alors, le vol est assez court. Ça se compte peut-être en 1h30, 2h grand maximum, mais on a tourné un peu en l'air, parce que les conditions n'étaient pas immédiatement remplies pour atterrir. Parce que, en fait, il ne faut pas créer de suraccident, je dirais, et de perdre un avion chargé de personnel pour arriver.
Ça
ne sert
à rien d'atterrir s'il y a deux types avec des RPG qui sont là à vous attendre.
Et voilà. Et il y avait beaucoup de monde encore, ça tirait énormément, ça tirait partout. Donc il fallait d'abord avoir une idée un peu plus claire du dispositif au sol pour débarquer. Donc on a débarqué, nous, à la tombée de la nuit.
Enfin, j'imagine que c'est aussi bien le vol que surtout, en plus, quand vous y êtes et que vous ne pouvez pas débarquer parce que vous attendez des trucs, ça doit être un peu long, quoi.
Oui, c'est très long. Ensuite, on prend le temps quand même de préparer la mission. Donc, moi, je connaissais très bien la zone parce que Tombouctou, c'était ma base. Ensuite, la deuxième fois où j'y allais, donc d'expliquer à tout le monde dans l'avion, ok, on va atterrir ici, la base est là, il se passe, enfin, de se préparer et pour aller le plus vite possible une fois au sol, sachant que pour les éléments de renfort, il y avait donc moi avec mes éléments, je devais rentrer dans la base pour reprendre possession de la base et les commandos parachutistes devaient s'occuper du périmètre extérieur, donc avoir une action de... Donc il fallait se répartir les tâches, les secteurs, sachant qu'on allait atterrir de nuit et que la nuit c'est des problèmes de coordination supplémentaires. Et évidemment les combats au sol brutaux, le chaos, on ne sait pas trop où on en est, où sont les ennemis, etc.
Donc là ça durait depuis combien de temps quand vous atterrissez?
Je n'ai plus en tête, c'était quelques heures déjà, donc le poste avait tenu, donc c'est là où leur action a été absolument remarquable, l'action du poste. On pourrait revenir après, et donc on est atterri plusieurs heures après. Il restait quelques combats sporadiques, l'ennemi commençait à se retirer, et là il a fallu donc rentrer de nuit dans la base et reprendre possession des lieux et s'assurer qu'il n'y ait pas de commando infiltré dans la base, que l'entrée avait été pulvérisée, qu'il n'y avait pas de personnes qui tenteraient de s'infiltrer en même temps que nous, de traiter les blessés, parce quand on est arrivé, il y avait une dizaine de blessés, dont plusieurs très graves, un qui avait pris une balle dans la tête, par exemple. Donc il fallait prendre en compte aussi ces choses-là, remettre de l'ordre. Avec la section qui était venue avec moi, on avait redensifié le dispositif défensif, permettre aussi à ceux qui s'étaient battus de se reposer. Et c'est peut-être ça le plus important, c'est que ces personnes-là se sont battues de manière acharnée pendant plusieurs heures. Quand on est arrivé, c'était un peu la cavalerie pour leur permettre enfin de dormir, de manger, de boire et de débriefer aussi, ce qui est très important.
Et simplement, donc vous êtes arrivé sur la fin, quoi, pour terminer la chose. Oui. C'était quoi les assaillants? Enfin, je veux dire, donc vous nous avez dit une cinquantaine de personnel qui restaient sur la base, dont la moitié qui combattaient. Mmh. En face de combien?
Alors, pour les chiffres, c'est pas une cinquantaine dans la base, c'était moins, je dirais une trentaine maximum. Tous ont combattu, mais ces personnes-là n'étaient pas des personnels combattants, on va dire nativement. C'est-à-dire, typiquement, ce jour-là, les transmetteurs de l'armée de l'air, les cuisiniers du groupe de soutien, etc., tous ont pris leur arme et se sont battus pour tenir le poste. Et c'est assez remarquable parce que chacun a très bien rempli son rôle. Par ailleurs, certaines actions décisives ont été faites par les cuisiniers du soutien, qui ont su réagir au bon moment et qui ont fait preuve d'un grand courage. Donc, voilà, pour revenir sur ces effectifs, donc c'était une trentaine, et l'ennemi, très difficile d'avoir des chiffres, mais on comptait sur 20, 25 peut-être, sachant que ce jour-là, une dizaine de djihadistes... Alors attendez, on en a 6, une dizaine, ouais, une quinzaine, ouais. On a retrouvé une quinzaine de corps.
D'accord, donc ouais. En termes d'effectifs, c'était à peu près équilibré, ouais. Mais les terroristes, enfin les gardes, quoi, avaient l'élément de surprise, et puis plus d'équipement, et puis plus
l'équipement,
d'expérience.
Voilà. Pas forcément, alors ça, ce sera difficile à juger, mais l'effet de surprise, fondamental, parce qu'ils ont attaqué en milieu d'après-midi, souvent où il fait très très chaud, certains font la sieste, etc., vers 15h, ces heures-là.
Donc, c'est fourbe d'attaquer au moment de la sieste.
C'est très
terrible.
Fourbe.
Les terroristes n'ont aucun principe.
Exactement, aucun principe. Certains ont dû même se battre torse nu, voire en slip. oui, la surprise, beaucoup d'équipements. Ils ont tiré donc avec des mortiers, ils ont tiré aussi avec des lance-roquettes qu'ils ont employées à tir courbe, donc pour s'en servir pour en tir indirect, pour saturer la zone. Beaucoup d'armes automatiques, et puis la perfidie, c'est-à-dire que les véhicules grimés aux couleurs de l'ONU, mais aussi les soldats ennemis, enfin le commando ennemi, c'était à peu près 6 personnes, si je me rappelle bien, costumées en personnes de l'ONU, donc casque bleu et treillis africains, je dirais. Et quand ils sont arrivés dans le sillage du véhicule qui s'est fait exploser, peu après, ils criaient « c'est l'ONU, tirez pas, c'est l'ONU, tirez pas », donc pour essayer de rentrer dans le camp. Et là, justement, c'est là où on voit l'importance de former chacun de nos soldats de l'armée de terre, ou voire des autres armées, au métier de combattant. C'est que c'est les plus jeunes qui ont compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Typiquement, c'est un jeune légionnaire de ma compagnie qui, à ce moment-là, avait à peu près un an de service, donc ce qui n'est pas beaucoup dans l'armée, qui a compris qu'il y a quelque chose qui n'allait pas et qui a ouvert le feu sur eux. Donc il a réussi avec son chef à côté de neutraliser 3 sur 6. Ce qui a limité le volume du commando qui s'infiltrait. Et ça, ces décisions, elles sont prises. C'est le jeune soldat qui l'apprend en son âme et conscience. C'est pas le chef qui a eu le temps de dire faites ceci, faites cela.
Et justement, les vrais onusiens, pour le coup, ils étaient où?
Dans leur camp, et ils attendaient pour défendre leur camp. On était un peu seuls sur ce coup-là.
C'était normal, mais en même temps, la manière dont on le dit, c'est pas aussi une bonne chose, parce que s'il reste là, c'est que, donc si les faux casques bleus qui arrivent, c'est que c'est pas des vrais casques bleus. C'est pour ça qu'on a des procédures, c'est parce que ça permet de donner une certaine clarté dans des situations confuses. Quoi.
C'est mieux qu'il n'ait pas tenté de nous rejoindre, ça aurait créé plus de confusion qu'autre chose. Là où ils ont été déterminants, leur action était déterminante, c'est pour le traitement des blessés. On a eu des blessés catégorie alpha, comme on dit. On en a eu plusieurs, trois très très graves, dont un qui avait pris une balle dans la tête, un légionnaire, auxiliaire sanitaire en plus. S'il est encore en vie actuellement, c'est aussi parce que le médecin-chef de la 13e DBLE était sur place, a pu le prendre en compte. Mais ensuite, les Suédois, si je me rappelle bien, de l'ONU, ont pu faire les gestes qui sauvent au bon moment. Donc c'est très bien qu'il n'ait pas... rejoint rapidement le camp français, sinon on aurait peut-être eu des tirs fratricides. Quand la situation était un peu plus stabilisée, ils ont joué leur rôle. Mais c'est très difficile dans ces situations de chaos, hein, parce que quand il y a combat, il y a souvent chaos. Ce qu'il faut rechercher, à mon sens, immédiatement, c'est la clarté de la situation et de déconflicter. Faire en sorte que chacun respecte son secteur, d'éviter de trop se mélanger, parce que sinon, c'est le meilleur moyen d'amplifier le chaos et de créer des pertes inutiles.
Et quand vous êtes arrivé et que vous avez mis de l'ordre, déjà, c'est bête, mais visuellement, ça vous a fait quelle impression, c'est-à-dire le champ de bataille?
Alors déjà, bon, quand je suis arrivé, c'était pas le désordre, hein, je vais pas arriver de me présenter comme le sauveur qui a mis de l'ordre, hein, parce que...
j'ai fait faire les lits à tout le monde en premier.
Voilà, c'était pas ça, c'est déjà, oui, relever les personnels épuisés, et en effet réorganiser un peu le dispositif, ajouter de la densité, de la masse, etc. Et pour répondre à votre question, la première chose qui m'a frappé, donc on a atterri de nuit en posée d'assaut, c'est le terme technique. L'aéroport était totalement détruit.
C'est à quoi posée d'assaut ?
Donc l'avion pose de manière très brutale, je dirais, sur la piste. Il ouvre la rampe, il n'éteint pas les moteurs, il continue parfois même à rouler par ailleurs. On sort en courant de l'avion, on met un dispositif, un 360 degrés de sécurité, et l'avion repart immédiatement. Donc en gros, l'avion reste même pas une minute au sol. Donc, ce qui permet de préserver la sécurité des pilotes et de l'avion. Et donc, on a fait ce petit posé d'assaut et ensuite, on s'est dirigé vers chacun de nos zones d'objectif. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que l'aéroport de Tombouctou était détruit. Donc, le bâtiment, pas très très grand par ailleurs, mais était entièrement détruit. Moi, ce qui m'a causé beaucoup de problèmes d'orientation, parce que je connais bien la zone. On arrive de nuit, on dit « Ok, mon point d'atteinte, c'est d'abord ce bâtiment, puis ensuite l'autre, etc. » Et en fait, le bâtiment n'existe presque plus. Il est complètement détruit, on se dit qu'est-ce qui se passe. Et en plus, comme on attaquait de nuit et on ne voulait pas se faire aussi cibler, détruire, on faisait tout aux jumelles de vision nocturne, aux OB. Et donc la vision, elle est quand même pas simple, etc. etc. Donc voilà, vraiment le chaos déjà au niveau de l'infrastructure. Ensuite, passer l'aéroport, c'est j'arrive au niveau de la base française et là, on est pareil, détruite, l'entrée. Le portail, les petites tours qu'on avait créées pour mettre des gardes étaient aussi détruites. Donc difficile de s'orienter, difficile aussi d'avoir une appréciation de situation très claire. Je m'en rappelle très bien quand je suis arrivé, à ce moment-là, on avait plusieurs corps à l'entrée, par terre. D'autres personnes qui étaient en train d'attendre, disaient « Attention, ne bougez pas, il est piégé, il n'est pas mort, etc. » Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, un vrai besoin de coordination avec les personnes sur place. S'identifier, parce que j'avais pas réussi à prendre la liaison avec le chef de poste, parce que les liaisons radio étaient mortes. Donc faire attention à ne pas se faire tirer dessus, et nous-mêmes de ne pas tirer sur les amis. Donc un vrai besoin de coordination, de clarification. Voilà. Donc c'est simple à expliquer. Quand on est de nuit dans une situation chaotique, c'est pas simple. Voilà. Et d'éviter de créer plus de problèmes qu'autre chose.
Et c'est tout bête, mais vous, pour votre section, quoi, vous avez tiré ?
Oui, il a fallu. Alors c'est intéressant, justement. Pendant la nuit, on n'a pas tiré. On a réussi à ça a pris du temps, mais à reprendre possession des lieux, recommander le dispositif, voilà. Comme on dit chez nous, poser un dispositif sommaire pour assurer la sécurité. Puis le jour s'est levé vers 5h du matin, 4h30, 5h du matin. Et là, on a commencé à faire corps après corps de l'ennemi pour vérifier que tout était clair, ils avaient tous des gilets explosifs sur eux. Pour prêt à se faire sauter, donc on engageait nos éléments du génie pour déminer tout ça. Et à ce moment-là, quelqu'un qui faisait semblant de faire le mort, qui a fait semblant de faire le mort toute la nuit, s'est levé brutalement pour essayer de se faire sauter, tout simplement, et de tuer quelques-uns de nos soldats. Donc là, il a fallu l'abattre immédiatement, donc ça a été un peu un concours de vitesse presque. Donc c'est là où on peut dire merci à nos procédures, c'est-à-dire qu'on apprend par exemple à l'armée que chaque action, on met en place un appui. Donc un appui, ce sont des personnes qui restent sur place, qui observent la zone, leur arme prête, et si l'ennemi se dévoile, de lui tirer dessus, etc. Et ce qui permet aux autres éléments qui bougent de faire ce qu'ils ont à faire de manière la plus sécurisée possible. Là, à ce moment-là, le fait d'avoir posé un appui qui surveille la zone a permis aux EOD, donc les démineurs qui s'approchaient du bonhomme, de rester en vie. Parce que c'est l'appui qui a réussi à détruire ces personnes qui faisaient semblant d'être morts. Ah, donc c'est des procédés qui sont souvent mis en place. Enfin, l'ennemi, pour le coup, ce jour-là, a été particulièrement perfide. Entre les costumes de l'ONU, les véhicules grimés aux couleurs de l'ONU, faire semblant de faire le mort pour se faire sauter au dernier moment, etc. Donc oui, il a fallu, on va dire, finir le travail, pour parler de manière un peu triviale.
Et ceux qui ont défendu le poste, ils en ont gardé... Enfin, je sais pas, ils se sont découverts une passion pour la tactique et l'opérationnel, et ils ont décidé de poser les émetteurs et les transmetteurs et de prendre un HK. Enfin, à l'époque... Qu'est-ce que ça leur a fait, ce combat? auquel ils ne s'attendaient pas apparemment. Ouais.
Ça a beaucoup marqué quand même, pour ceux à qui j'ai pu m'entretenir. Je ne pense pas que ça ait créé des vocations. Déjà, la première chose, il y a les effets. Donc là, maintenant, je ne saurais pas dire plusieurs années après, parce que parfois, il y a des choses qui émergent plusieurs années après. Mais immédiatement, la première chose moi, qui m'est frappée, c'était un peu un effet de sidération. Et là, il a fallu, ça a été un petit combat, c'est de lutter contre le sentiment de la citadelle assiégée. Et de dire, ok, on a été attaqué, vous avez repoussé l'attaque, mais maintenant, on ne va pas rester enfermé dans la base, mais on va sortir. Et on va faire comme si de rien n'était pour réoccuper le terrain, etc. etc. Pourquoi ? Parce que, en fait, on savait que tout le monde n'était pas mort en face. Il y avait même des éléments qui nous laissaient croire que tous les véhicules suicides n'avaient pas explosé. Et donc, on s'est dit, on va avoir la deuxième vague. Et donc, mieux vaut rester dans le camp, prêt à. Le problème, c'est que c'est la pire des solutions, en fait, et de subir et d'attendre que l'ennemi revienne. Donc là. Immédiatement, hein, le lendemain de l'attaque, on a relancé des opérations on a fait des opérations de nuit, d'infiltration pour aller directement sur certains lieux qu'on avait identifiés comme étant les lieux d'où venait l'attaque, etc. pour réoccuper le terrain et se remettre dans une dynamique positive. Non pas une dynamique défensive de « je m'apprête à prendre le choc », mais « je porte aussi la menace auprès de l'ennemi ». Donc ça, c'est une des premières réactions, voilà, cette espèce de sentiment défensif qu'il a fallu un peu combattre. Et ensuite, l'esprit de corps, par contre, très très renforcé. Alors déjà, qui était bon au niveau de la base, et ça, le commandant de site de l'époque, qui n'était pas moi, hein, qui était un autre, avait vraiment travaillé de manière remarquable à créer un esprit de cohésion très fort qui a assuré que le camp tienne. Mais ce sentiment-là s'est renforcé. Et c'était très, très précieux, à mon avis, parce que c'est lorsqu'un événement comme ça surgit, il faut aussi pouvoir en parler. Et pour ça, il faut avoir une confiance mutuelle et savoir voilà, qu'on peut faire confiance à son copain d'à côté. Donc voilà pour les réactions. Après, c'est vrai qu'il y a un certain sentiment de fierté. Typiquement, il y a des jeunes légionnaires qui ont dit bah, « aujourd'hui, on a un peu fait Cameron ».
Rappelons donc Cameron, c'est cette bataille légendaire, mythique en tout cas pour la Légion étrangère au Mexique, donc de légionnaires... assailli par l'armée mexicaine sous le Second Empire, et c'est les comptables, c'est les cuisiniers qui ont défendu la base, et c'est devenu en quelque sorte la pierre angulaire du mythe et de l'identité de la Légion étrangère.
Exactement.
Donc ils ont refait Cameron.
Alors, on va pas aller jusque là, hein, faut rester très très humble par rapport aux événements historiques, mais il y a un peu de ça, et c'est amusant parce que moi, quand je partais avec ma compagnie...
C'est par ailleurs très intéressant, oui, sur ce que ça dit de l'imaginaire historique ou pas, comment une unité ou un corps ou une arme transmet son passé et son identité. Quoi.
Oui, exactement. Mais on dit souvent, bon là, on le sait, hein, Cameron, c'est le respect de la parole donnée, mais aussi l'idée qu'il n'y a pas de petite mission. Et pour le coup, sur cet épisode-là, On l'a vu en fait. C'est-à-dire que ceux qui sont restés en base arrière pour monter la garde de la base de Tombouctou, c'est ceux qui n'étaient pas partis avec moi faire les grosses opérations dans le Liptako. Parce que il fallait qu'il y ait bien des gens pour monter la garde. Certains étaient un peu blessés, ils avaient une cheville tordue ou des choses comme cela. Donc c'est pas la mission exaltante qu'on leur a donnée. Et pourtant, en fait, c'est la mission qui leur a permis de montrer leur valeur, etc. Tandis que nous, qui étions à Gao, etc., à ce moment-là, on n'était pas au combat. Enfin, on a fait des opérations.
Pendant ce temps-là, vous poussiez des cailloux et vous cherchiez des djihadistes qui étaient à ton...
Alors, on en a trouvé aussi, pour le coup, mais on a pu faire du bilan. Mais c'est intéressant parce que, en fait, à mon avis, c'est une vraie leçon. C'est-à-dire qu'on vous a laissé sur la base, là-bas, c'est pas parce que vous êtes plus mauvais que les autres, etc. Et c'est pas aussi parce qu'on vous a laissé sur place qu'il va rien se passer. Et en l'occurrence, il s'est passé quelque chose et ils ont eu à mettre en œuvre leur savoir-faire. Et ça, c'est à mon avis, c'est une leçon qui est pleine de sens, surtout pour des jeunes, parce que j'avais quand même beaucoup de jeunes légionnaires dans la compagnie et ces jeunes-là, ils avaient un an de service. Et ben leur première expérience du feu, ça a été en montant la garde. Donc ça a quand même du sens, alors que souvent on dénigre ce genre de mission parce qu'elles sont pas exaltantes. Voilà. Et puis aussi l'idée que voilà, même si on est cuisinier. Ou transmetteur, etc., spécialiste, satellite, etc., eh ben on aura peut-être à se battre, à utiliser ces armes. Et je pense que c'est encore plus de nos jours, en fait, ça a un écho sur le fait qu'on est tous combattants et on est tous des cibles potentielles. Et c'est pas parce qu'on est sur du soutien ou de l'appui que l'on ne sera pas un jour attaqué. Donc ça reste, à mon avis, pour le coup, quelque chose qui fait réfléchir, une action qui fait réfléchir. D'autant plus que voilà, ce sont des personnes, les plus jeunes, voilà, qui ont fait une action qui a été très intense et très dure pendant plusieurs heures.
Merci beaucoup, commandant Stéphane.
Merci, Elle.